France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Mattet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Au menu ce soir, la légalisation du cannabis récréatif en Allemagne au moment où la France renforce sa lutte contre les trafics de drogue. Une telle mesure a-t-elle une chance de voir le jour dans notre pays? Une pratique encadrée fonctionnerait-elle mieux que le tout répressif? Ce sera l'objet de notre premier débat. 1 euro désormais non remboursé sur chaque boîte de médicaments ou acte paramédical. La franchise était jusque là de 50 centimes, augmentation anecdotique ou pas, est-ce le bon moyen pour le gouvernement de réaliser des économies? Cela interroge, quoi qu'il en coûte, notre rapport au service de la santé. Et puis la colère qui monte en Israël, des manifestations anti-Netanyahou près de 6 mois après l'attaque du Hamas et la riposte à Gaza. Le Premier ministre peut-il sauver son poste dans ces conditions? Pour discuter, débattre, analyser, nous informer, en ce lundi de Pâques, Jannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique, Cécilia Gabizon est avec nous. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir.
Journaliste, directrice des rédactions du groupe Média ETX Magellan. Et Franck Boisise, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Journaliste économique à Libération. C'est parti pour une heure de débat. Des fumeurs de joint devant la porte de Brandebourg. L'image ne restera sans doute pas autant dans l'histoire que celle de la chute du mur de Berlin il y a maintenant 35 ans, mais elle dit tout de même pas mal de choses du soulagement, de la joie de ces consommateurs de voir l'Allemagne légaliser le cannabis récréatif. Jamais un pays aussi grand ne l'avait fait en Europe. Cette légalisation était une promesse de la coalition du chancelier Olaf Scholz, loi très attendue, mais qui suscite aussi beaucoup de craintes, notamment quant à son application, Sébastien Baer.
Le texte laisse un certain nombre de questions sans réponse. Par exemple, comment se procurer du cannabis dès aujourd'hui? Les consommateurs qui ont planté des graines ce matin doivent maintenant attendre la floraison, pas avant l'été. Et les clubs cannabis, les associations qui distribueront la drogue à leurs adhérents, ne pourront débuter leur activité que le 1er juillet. Cela veut dire que pendant cette période de transition de 3 mois environ, le marché noir a encore de beaux jours devant lui. Autre question, comment appliquer la loi? La consommation est interdite à moins de 100 mètres des écoles, crèches, terrains de jeu, installations sportives. Benjamin Yendro, le porte-parole du syndicat berlinois de la police, redoute un casse-tête pour les forces de l'ordre.
Avec cette règle des 100 mètres, cela signifie quasiment qu'il ne doit pas y avoir de drogue à Berlin, parce qu'il y a des écoles et des crèches partout. Cela veut dire que nos collègues vont devoir se déplacer avec un mètre ruban. Et puis on ne doit pas avoir plus de 25 grammes sur soi. On peut avoir au maximum 50 grammes à la maison. On a le droit d'avoir 3 plantes femelles. Cela signifie que nos collègues devront savoir les reconnaître. On a créé une loi, mais on n'a pas réfléchi à la façon dont les forces de l'ordre l'appliqueront.
Les syndicats policiers sont vent debout contre cette légalisation qui divise. Un Allemand sur deux y est opposé. Beaucoup redoutent aussi une surcharge de travail pour la justice, car avec l'amnistie des délits liés au cannabis, 200 000 affaires vont devoir être réexaminées.
Voilà, Sébastien Baer, à Berlin, correspondant de France Info en Allemagne. Avant de regarder ce qui se passe chez nous en France, un premier commentaire sur cette légalisation en Allemagne, Jannick Halimi, où visiblement tout n'a pas été anticipé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Tout n'a pas anticipé aussi pour une bonne raison, parce que les Allemands quand même s'y connaissent en organisation, en tout cas en mobilisation, c'est que il y a très peu d'expérience dans le monde et que les conséquences que peut avoir une telle décision sont assez impalpables, parce que encore une fois pas très concrètes ici-bas, j'allais dire. Je crois qu'il n'y a sous réserve d'inventaire que le Canada et l'Uruguay qui ont un historique assez long pour pouvoir juger de certains effets.
Il y a Malte et le Luxembourg en Europe, mais effectivement, c'est plus récent.
Voilà, c'est très récent, donc c'est difficile d'en tirer les leçons. Donc ça va être aussi un exemple à suivre ou pas, en tout cas une référence peut-être pour la France, où on n'arrête pas, on ne cesse pas de vouloir ouvrir le débat, et on l'entrouvre à peine, en tout cas on le ferme très très vite. Il faut dire aussi peut-être une précision, c'est que les Länder, hein, je crois, auront la liberté ou pas, les États allemands, les régions allemandes, le droit ou pas d'appliquer cette loi. Et je crois que déjà la Bavière, qui est tenue par la CSU, c'est-à-dire l'aile la plus conservatrice de la CDU, du parti lui-même libéral et conservateur, a déjà dit qu'elle ne mettrait pas en œuvre une telle loi si elle était amenée à être votée, à être décidée.
Cécilia Gabizon, ça vous surprend qu'un pays comme l'Allemagne prenne cette mesure de légalisation du cannabis récréatif?
C'est intéressant parce que ça se fait un peu au nom du pragmatisme. Et de ce point de vue-là, ça ouvre une brèche qu'on sent ici et là dans des petits pays en Europe, mais effectivement certains États aux États-Unis, le Canada. Donc il y a un courant quand même autour de. Alors il y a plein de mots différents. Il y a légalisation, il y a dépénalisation qui est pas la même chose. Donc c'est finalement. Donc et là le fait que l'Allemagne qui pour le coup a une certaine culture de la concertation. Donc effectivement on a vu que tout n'était pas posé, mais on se dit que dans la société allemande, qui est un peu moins conflictuelle que la société française dans son ensemble, c'est peut-être là où ça va pouvoir s'expérimenter sur comment, dans le réel, au quotidien, comment ça se met en place avec une forme de bon sens et d'entente entre les parties concernées, on va dire. Donc c'est intéressant que ça se déploie en Allemagne.
Franck Boisvis, c'était les écologistes qui avaient poussé, c'est le cas de le dire, pour cette mesure, pour séduire les jeunes également.
Alors, effectivement, ils ont poussé, il y a une décision politique qui est prise. Néanmoins, on a quand même le sentiment d'être au milieu du guet. C'est-à-dire que toutes les limites que l'on vient d'entendre avec le correspondant en Allemagne qui sont fixées, notamment la limite de 25 grammes et de 50 grammes. Que va-t-il advenir pour les consommateurs réguliers? Parce qu'ils sont de fait au-delà de cette limite. Et donc, on a le sentiment qu'effectivement, comme le disait Cécilia, on ouvre une brèche. C'est-à-dire que les États européens ne savent pas vraiment comment faire avec cette question.
Un premier pas, en quelque sorte.
Donc, on ouvre une brèche, mais en même temps, au quotidien, j'ai un peu de mal à imaginer comment ceci va s'organiser compte tenu des restrictions et des contraintes, parce que politiquement non plus, le gouvernement allemand ne veut pas aller sur une législation extrêmement ouverte dans laquelle ce serait la consommation pour tous, pour tout le monde et sans limite.
Et on voyait d'ailleurs que les policiers allemands, eux non plus, ne savaient pas exactement comment s'organiser à l'avenir. On regardera du côté de la France dans un instant, le temps de dérouler le fil info à 20h10, Thomas Giraudeau.
Un commandant et cinq membres des gardiens de la révolution iranienne sont morts dans des frappes israéliennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elles ont détruit le consulat d'Iran situé à Damas en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à répondre à ces frappes. Israël suspecte l'Iran, allié du Hamas, de vouloir s'implanter en Syrie. Le pays partage une frontière commune avec Israël. Dans l'Yonne, le pic de la crue de la rivière Armançon est attendu dans la nuit. Une trentaine de personnes ont été évacuées dans le département en vigilance maximale rouge. La Côte d'Or voisine est également en rouge. L'Indre-et-Loire, elle, redescend à l'orange. Là-bas, la décrue de la Vienne a commencé. 8 départements sont en vigilance orange. Jamais autant d'exilés n'avaient traversé la Manche. Plus de 5000 personnes sont parties des côtes françaises et ont atteint les îles britanniques depuis le début de l'année. Au moins 7 migrants sont morts au cours de ces traversées. Et puis, sa suppression inquiète de nombreux observateurs et analystes des réseaux sociaux, particulièrement avant les élections américaines. La maison mère de Facebook et Instagram, Meta, annonce qu'un de ces logiciels va disparaître en août prochain. Son nom, CrowdTangle, c'est un outil qui repère la désinformation et les théories du complot partagées sur Facebook et Instagram.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et on poursuit notre discussion après la légalisation du cannabis récréatif en Allemagne. En France, on n'en est absolument pas là. Emmanuel Macron avait bien évoqué une possible dépénalisation dans son programme. C'était en 2017. On n'en est plus du tout là, particulièrement en ce moment d'ailleurs, avec ces opérations anti-trafic de drogue à répétition, les opérations dites Place Nette, parfois XXL. Écoutez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ces derniers jours sur le terrain.
Fumer son joint, prendre son rail de coke, c'est participer à un trafic qui exploite les enfants, qui torture les personnes et qui crée des règlements de compte et qui finance le terrorisme. Et tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura de la drogue. La réponse à la drogue, c'est pas plus de policiers. Oui, c'est une réponse d'urgence, d'urgentiste. La réponse à la drogue, c'est que les Français se rendent compte qu'ils peuvent tous y contribuer en arrêtant de consommer du cannabis, de la cocaïne.
Un trafic qui torture les personnes, qui finance les terrorismes, pour reprendre les mots très forts, Yannick Halimi de Gérald Darmanin. On attaque directement le consommateur, c'est lui en clair le grand responsable. C'est la bonne stratégie, ça, de culpabiliser les usagers de drogue.
Alors, il culpabilise, il faut reconnaître que le ministre de l'Intérieur, en tant que plus grand flic de France, s'attaque aussi au trafic, essentiellement. On l'a vu aussi avec des résultats assez forts, puisqu'il a fait arrêter deux têtes des gros réseaux, des
gangs. Sur lesquels il communique quasi quotidiennement en ce moment.
Voilà, exactement. Donc, rendons à César ce qui est à César. Donc, il s'attaque surtout aux trafiquants. D'ailleurs, le discours, il met sur le même piédestal le cannabis et la cocaïne. On peut s'interroger. Encore une fois, Gérald Darmanin est dans son rôle quand il parle de la sorte. En plus, il veut incarner le côté régalien du quinquennat du mandat d'Emmanuel Macron. Donc, il est totalement dans son rôle. Sauf que, il faut en arriver aux réalités. C'est qu'il a quand même énormément de mal à couper les têtes de leaders, comme il dit, de ces réseaux-là, et qui s'attaquent seulement aux bras, et aux petits bras et aux petites mains. D'où, d'ailleurs, pour avant de développer un peu plus tard ce qu'il faudrait faire, mais reconnaissons aussi, et disons-le aussi, qu'il y a toute une partie des policiers et même des gendarmes qui reconnaissent évidemment de façon anonyme qu'ils sont surchargés de travail pour des résultats quasi inefficaces, et que certains d'entre eux n'hésitent pas à dire, encore une fois, et pas non pas à proclamer mais à susurrer, qu'ils étaient pour une légalisation du cannabis, entendons-nous, pas pour les mineurs, on va pas rentrer, ça va de soi, mais les choses sont évidemment beaucoup plus complexes, y compris dans la grande maison de la place Beauvau,
que les propos catégoriques tenus par cet avis. On le voit aussi dans la classe politique. Alors,
bien sûr,
voilà, c'est pas majoritaire. Mais c'est le cas, par exemple, de la députée Renaissance Caroline Janvier. Elle était l'invitée ce lundi de France Info. Et pour elle, on va l'écouter, on est aujourd'hui dans une approche trop idéologique.
C'est un peu comme si on pensait qu'interdire l'alcool, et on a vu les États-Unis à l'époque de la prohibition tenter cela, qu'interdire l'alcool suffisait à régler tous les problèmes de consommation d'alcool, tous les problèmes de violence aussi intrafamiliale. Et on voit bien que ça n'est pas possible. Et donc, c'est la même approche pour le cannabis. On a tenté de l'interdire il y a 50 ans. Et en réalité, aujourd'hui, on a 5 millions de consommateurs occasionnels. On voit bien qu'on est parmi les plus gros consommateurs, avec aucune politique publique de prévention, d'accompagnement des gens qui consomment, puisqu'on s'en tient à la seule interdiction pour régler tous les problèmes.
Cécilia Gabizon, ce que dit Caroline Janvier, en clair, c'est qu'interdire ne résout pas tous les problèmes. On voit aussi que cela divise au sein de la majorité.
Alors, c'est un sujet super compliqué et complexe, vraiment, autour de la drogue. Mais je voudrais, il y a déjà des années, quand j'étais à l'ESSEC, on travaillait sur les facteurs de décision et les facteurs de dissuasion. C'était de l'économie. On appelait ça l'élasticité du crime à la répression. Et en fait, c'était déjà le cas de la drogue. C'est-à-dire finalement, quelles sont les politiques qui marchent? On peut dire qu'en France, on est complètement dans une politique qui est inefficace. C'est pas un jugement de valeur, mais en termes de politique, c'est inefficace. Donc, très gros consommateurs, pays où on consomme pratiquement le plus. Et en plus, énormément de législation hyper dure qui n'atteint pas ses objectifs. Donc, si on le regarde comme ça, c'est un sujet qui est à la fois politique, économique, éthique, scientifique, sur les effets sur les cerveaux des jeunes, etc. Mais si on le regarde d'un point de vue économique, souvent certains aiment se prévaloir de ce genre d'argument, d'un point de vue économique, en fait, aujourd'hui, le fait de l'interdiction est quelque part un désastre, puisque ça crée ces poches mafieuses, en fait, ces poches mafieuses qui fait qu'il y a toute une économie souterraine avec de la violence et dont les habitants des cités sont les doubles victimes, à la fois parce qu'ils vivent dans des lieux qui sont extrêmement dangereux et aussi parce qu'ils sont surcontrôlés par les policiers. Donc c'est l'interdiction, elle marche pas. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers la légalisation? Là, il y avait, pour vous dire, une autre étude du BCG qui était intéressante, qui expliquait qu'en fait, il faudrait en fait faire des amendes extrêmement fortes pour le consommateur. Parce que le consommateur, en gros, il est moins dangereux que le trafiquant, donc il va moins s'en prendre à la police, il est plus facile à arrêter. On lui fait des amendes extrêmement fortes à un pourcentage de son revenu, et en fait, quelque part, on lui dit, bah voilà, t'as un rapport à la liberté, tu peux contrevenir à la loi, choisir, mais ça va te coûter très cher. Et donc, tu peux faire ce
choix-là. Un mélange, finalement, de répression et de liberté.
Mais de répression très cher sur le consommateur. Ça veut dire que aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est pas que je préconise cette politique, c'est que je dis que en fait, on se donne pas les moyens d'avoir une réflexion complète, parce qu'on pourrait dire, ok, on veut l'arrêter, on culpabilise à fond les consommateurs avec des amendes hyper chères, ça va assécher le terreau. Mais aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux où on fait un peu les consommateurs, un peu les dealers en essayant de faire plus. Et en fait, cette situation-là, elle ne permet pas, en tout cas, même de faire de la prévention.
Problème très complexe, on l'a dit, et d'ailleurs en 50 ans, rien ou presque n'a changé au niveau de la loi. Franck Boisis, votre journal Libération titrait le 18 juin 1976 l'appel du 18 juin, juin G-O-I-N-T. Et depuis cette période-là, finalement, la loi est presque la même.
Alors, rien n'a changé sur le plan légal, vous avez raison. En revanche, ce qui a changé, c'est la constitution du crime organisé autour de ce produit qu'est le cannabis. Je crois qu'il faut quand même rappeler quelques chiffres. Le marché du cannabis en France, selon l'Office français de la drogue et des toxicomanies, c'est 3 milliards d'euros. Donc c'est quand même un marché très important. Et c'est là où le sujet de la dépénalisation, de la légalisation est intéressant. Parce que mettons qu'on légalise, et mettons qu'on légalise de manière extrêmement libérale dans ce pays, pensons-nous véritablement que les groupes organisés aujourd'hui qui vivent sur ce marché de 3 milliards d'euros vont l'abandonner du jour au lendemain d'un claquement de doigts? Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir du cannabis légal, faiblement dosé en THC, le principe actif du cannabis. Mm-hmm. Et puis, d'ailleurs, ce qu'on observe depuis 20 ans, le principe actif du cannabis a beaucoup augmenté. Et on aura un cannabis illégal, beaucoup plus fort, qui continuera à être vendu par ce crime organisé. Et donc, la légalisation en ça ne réglera ni le problème de la consommation, ni le problème de la violence, qui, à mon avis, est aujourd'hui le problème numéro un, de la violence qui est associée au commerce du cannabis, qu'il soit légal ou illégal.
Jeanine Calimi.
Alors, le problème numéro un, je pense, c'est quand même la santé des gens. Moi, je vais vous dire, il y a encore quelques mois, j'étais pour l'interdiction, mais à fond. Je veux dire, voilà. Sauf qu'il y a la réalité, il y a
tous les chiffres. Qu'est-ce que vous avez fait changer d'avis ?
Voilà, je vais vous le dire. Il y a tous les chiffres qu'on vient d'édicter. De toute façon, ça ne sert à rien. La consommation continue d'augmenter. Les trafics prospèrent. Et l'argent se multiplie ad libitum. Par contre, j'ai écouté des médecins, parce que c'est quand même ça, moi, qui me sensibilise et me détermine à travers la question de l'utilisation d'une drogue, quelle qu'elle soit. Et les médecins, là, pas tous, entendons-nous, mais une grande partie du corps médical, également les addictologues et également les pédiatres. Attention, pardon, les pédiatres, pas question de toucher encore une fois aux mineurs, et en plus c'est un âge de mineur qui peut aller au-delà des 18 ans, 20, 21.
On dit que sur le cerveau, ça a des effets jusqu'à 25 ans.
Voilà, donc si on veut bien mettre ça entre guillemets de côté.
Si on revient sur la politique, Jeanine Calimi.
Sur la politique,
est-ce que la France pourrait, elle, changer d'avis?
Écoutez, moi j'entends, on voit la maire de Strasbourg, qui est une maire écologiste, qui veut tenter l'expérience, premièrement. Mais j'entends aussi un maire centriste, qui est celui de Reims.
Ça, ce serait une solution ?
Bah, tenter une expérience. Alors moi, je ne sais pas dans quelle mesure on peut évaluer une expérience limitée à une ville. Moi, je vous avoue que je n'en sais rien. Non, j'en sais strictement rien. En revanche, encore une fois, je reviens à des paramètres essentiels qui sont les médecins, une grande partie des médecins, les associations, beaucoup de maires qui sont évidemment en première ligne et qui disent que il n'est pas question d'ouvrir, et c'est là où je m'inscris un petit peu en faux, mais c'est parce que vous avez dit, Franck, mais presque. Il ne s'agit pas de libéraliser et de faire en sorte que soit la loi de l'offre et du marché. Si on libéralisait, non pas dépénaliser, qui est une fausse solution, qu'on libéralisait le marché du cannabis, il s'agirait d'établir quoi ? Un monopole d'État avec un encadrement extrêmement rigoureux des règles sanitaires qui permettrait d'avoir de... C'est ce que vous disiez, pardon, alors.
Non, mais le monopole d'État ne peut pas marcher, Yannick, pour la simple bonne raison, c'est que c'est une loi économique des reins. À partir du moment où on aura un monopole d'État, ceux qui, à présent, exploitaient ce marché extrêmement juteux ne baisseront pas les bras. Donc, ils proposeront un produit qui sera à la fois moins cher et plus dosé.
Oui, c'est ce qu'on voit, notamment, effectivement, avec les cigarettes. Vous n'avez pas totalement tort, puisque les cigarettes, c'est totalement libre et il y a un marché. Il n'en paie, et un marché secondaire, un marché au noir, avec des cigarettes de mauvaise qualité. Il n'empêche que ça vaudrait peut-être le coup de le tenter et dire quand même aux auditeurs qu'il ne s'agit pas tout de même de libéraliser pour que ce soit le marché qui fasse sa loi. Loin de là, ça sera à la limite tout le contraire.
Yannick Calimi, Cécilia Gabiz, on va vous entendre dans un instant. On va d'abord faire une pause pour le Fil Info, 20h21. On retrouve Thomas Giraudeau.
Le préfet de Lyon s'inquiète avant le pic de la crue cette nuit. La rivière Armançon, qui a déjà débordé par endroits, devrait atteindre son maximum entre 22h et minuit. Une trentaine de personnes ont été évacuées. Lyon et le département voisin de la Côte d'Or sont en vigilance maximale rouge au risque de crue. Des drones équipés de caméras thermiques et infrarouges survolent la zone où les ossements d'Émile ont été retrouvés ce week-end, près du hameau du Haut-Vernay. Ils vont servir aux gendarmes à cartographier les lieux, à créer une reconstitution en 3D de la scène pour tenter d'éclaircir les circonstances de la mort de l'enfant. Son média dénonce des accusations sans fondement et un stratagème politique des autorités russes. Un tribunal vient de prolonger de 2 mois la détention d'Alsou Kourmacheva. La journaliste russo-américaine est accusée d'avoir diffusé de fausses informations sur la mer russe. Et puis la politique agricole commune n'est pas compatible avec les objectifs climatiques de l'Union européenne, selon une étude publiée aujourd'hui dans la revue scientifique Nature Food. Plus de 80% des subventions européennes soutiennent directement ou indirectement l'élevage, qui est le secteur agricole le plus polluant.
France Info. 20h, 21h, les informés. Docteur Mattei.
Avec cette question, la France pourrait-elle un jour, à son tour, légaliser le cannabis récréatif comme le fait l'Allemagne, comme vient de le faire l'Allemagne? Cécilia Gabizon, vous vouliez rajouter quelque chose?
Alors, je ne sais pas si la France le fera, parce qu'on voit que c'est très ancré idéologiquement, en tout cas à droite, c'est sûr que ça a toujours été très cohérent sur l'interdiction. À gauche, peut-être chez les écolos, il commence à y avoir donc des possibilités d'initiative. Ce qu'il y a, c'est qu'on
c'est
voit...
C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, mais le contexte général est en train de changer. Le fait que l'Allemagne l'expérimente, le démarre, que le Canada, certains États des États-Unis, que maintenant il y a du cannabis thérapeutique, il y a aussi de la vente de CBD légale. Donc quelque part, des alternatives, en fait, à ceux qui voudraient de la drogue mieux... encadré dans le sens où beaucoup de gens aussi sont très préoccupés. C'est une charge mentale d'aller acheter de la drogue dans des endroits louches. C'est une charge mentale de savoir
Cécilia,
ce qu'il y a à l'intérieur.
Elle arrive par Uber, ben non, il n'y a pas de charge mentale.
si. C'est une charge mentale. Et donc, il y aura aussi un certain nombre de gens qui vont choisir l'option. Bien sûr, ça ne sera pas radical, mais qui vont choisir l'option, qui choisiraient l'option d'une drogue encadré où on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez la préoccupation des jeunes pour savoir ce qu'ils mangent, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils mangent, etc. Donc, faut pas partir perdant sur le fait que, à un moment donné, une proposition plus encadrée, mieux encadrée
sur le domaine de la santé publique,
de la santé, plus encadrée sur le domaine de la santé, pourrait aussi trouver. Ça résoudra pas de manière radicale, mais là, on est dans un échec qui se perpétue depuis des années et des années. Donc, quelque part, c'est pas inintéressant de se dire. Explorons des pistes qui peuvent ouvrir en fait des solutions d'un point de vue de la santé.
Voilà, juste, débat relancé. Je tout dernier
mot,
je
ne pense pas qu'Emmanuel Macron prenne cette décision avant la fin du quinquennat.
Ce sera le mot de la fin sur ce dossier du cannabis récréatif légalisé donc en Allemagne. Notre deuxième sujet ce soir dans les informés concerne les franchises médicales ou le reste à charge qui vient de doubler sur chaque boîte de médicaments. Et pour tout acte paramédical, il passe de 50 centimes à 1 euro. Les patients doivent donc payer un peu plus pour se soigner. Bonsoir Nathalie Coutinet.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences économiques à Sorbonne, Paris Nord. Vous êtes spécialiste dans l'économie de la santé. Parlons économie, justement. Elle se justifie, cette mesure. Elle va vraiment rapporter gros à l'État?
Elle ne va pas rapporter très gros parce qu'on estime à 830 millions d'euros sur 236 milliards de dépenses de santé. Donc, c'est plutôt une goutte d'eau qu'une vraie source d'économie importante.
Comment on l'explique, alors?
Il y a deux idées dans ces franchises médicales. La première, c'est l'idée qui date du début des années 2000 et qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy de la responsabilisation des patients. Il faut responsabiliser les patients à ne pas surconsommer et pour ça, on va les faire payer en partie leurs dépenses de santé. C'est le principe du copaiement. Sauf que sur les boîtes de médicaments ou sur les consultations, ça marche pas très bien. Puisque notamment sur les boîtes de médicaments, en fait, on prend toujours des boîtes gratuitement à la pharmacie, mais c'est sur les remboursements suivants que sont déduits les 50 centimes ou les 1 euro aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément très lisible pour les patients.
C'est masqué en quelque sorte.
Pardon ?
C'est masqué en quelque sorte.
Oui, en quelque sorte, c'est masqué parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Alors, 50 centimes, c'est pas beaucoup, donc on voyait pas forcément. 50 centimes en moins. 1 euro, et s'il y a plusieurs boîtes, ça peut finir par se voir et être plus sensible. Mais le deuxième argument, ce sont évidemment les économies dans les dépenses de santé. Mais ces économies, elles sont faibles finalement au regard de la dépense globale de santé en France aujourd'hui.
Franck Boisis, je vois que vous voulez y réagir.
Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Nathalie Coutinet. Reprenons les chiffres. Les dépenses de santé dans ce pays, c'est 640 milliards d'euros par an. C'est ce qu'on vote chaque année sur la loi de financement de la sécurité sociale au Parlement. Bon, les dépenses de médicaments remboursés dans ce pays, c'est 23 milliards d'euros par an. Donc on va rechercher à récupérer 800 millions sur 23 milliards en finalement mettant une sorte de pénalité aux consommateurs. Question qu'on pourrait se poser également, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que sur le prix des médicaments tel qu'il est fixé, et quand on voit les résultats financiers des laboratoires pharmaceutiques, on pourrait aussi imaginer que certains médicaments, notamment les nouveaux médicaments qui sont extrêmement coûteux, voient leur prix revu à la baisse, ce qui permettrait une économie de remboursement. Et là, on retrouve nos 800 millions, voire même beaucoup plus, chers à ceux qui veulent résorber le déficit de l'assurance maladie.
Nathalie Coutinet, c'est une piste envisageable ou même qui est à l'étude ?
Alors, je ne pense pas qu'elle soit à l'étude. En effet, hein, les nouveaux médicaments sont à des prix exorbitants. Effectivement, ça serait une source d'économie. D'autant que il y avait une espèce d'argument, enfin, d'échange entre les laboratoires pharmaceutiques et l'État, c'est-à-dire que les anciens médicaments sont très peu chers et les nouveaux médicaments sont un peu plus chers. Mais finalement, le patient est perdant puisque les anciens médicaments ne sont plus produits parce que pas assez rentables. Et donc, les nouveaux médicaments sont très, très chers. Donc, il y a effectivement quelque chose à revoir dans la fixation des médicaments, du prix des médicaments aujourd'hui.
Jeannick Halimi a une question pour vous.
Juste sur cette question-là, madame, si vous me permettez, est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, justement, on pêche, alors pardon si c'est pas politiquement correct et que ça va pas dans le sens du vent, mais on pêche par des prix des médicaments, notamment les plus nouveaux, beaucoup trop bas, justement, toutes choses égales par ailleurs, quand on les compare, par exemple, au prix pratiqué par les grands laboratoires ou les petits, d'ailleurs, américains, et qui nous empêchent justement d'être performants sur des nouvelles molécules, de sortir de véritablement, vraiment médicaments innovants. Et ça explique peut-être en partie le fait qu'on n'ait pas pu mettre au point le vaccin contre le Covid, contrairement aux Anglais ou bien sûr aux Américains et aux Allemands.
On sort un peu débat, mais pour
répondre,
Nathalie.
Non, pas du tout. Est-ce que la baisse des prix d'un médicament pour permettre d'économiser effectivement des remboursements, on est en plein dans le débat, est-ce que vous pensez que c'est non seulement une mauvaise... Enfin, ce n'est pas une solution à la hauteur, mais en plus une mauvaise solution pour l'avenir de notre système de santé, pour notre santé, tout simplement.
Nathalie Coutinet.
Oui, alors aujourd'hui, les nouveaux médicaments arrivent à peu près au même prix dans tous les pays, puisqu'il y a ce qu'on appelle du benchmarking international qui fait que les prix sont négociés aussi en fonction des prix qui prévalent dans les pays comparables. Donc, il n'y a pas de gros écart sur les médicaments nouveaux en termes de prix. Après, en termes d'innovation, effectivement, on a pris énormément de retard. Mais c'est aussi parce que l'innovation pharmaceutique est essentiellement partie aux États-Unis aujourd'hui pour des questions de financement, aussi de financement public, et que c'est pas uniquement une question du prix. On peut comparer à des pays dans lesquels les médicaments sont beaucoup plus chers, la Suisse ou les États-Unis, il y a aussi des pénuries. Donc sur les nouveaux médicaments, c'est plus une question de financement de la recherche que de prix des nouveaux médicaments.
Merci Nathalie Coutinet, vous restez avec nous, on va poursuivre la discussion. Je vois que Franck Boisdiz aussi voulait intervenir, on va lui donner la parole dans les prochaines minutes. Il est 20h30 sur France Info. L'info à 20h30 sur France Info, c'est avec Claire Checaglini.
Une nuit a guetté la montée du niveau des eaux. Lyon et la Côte d'Or sont en vigilance rouge pour risque de crue. 7 autres départements restent classés orange. À Aizy-Armançon, dans l'Yonne, 36 habitations ont été évacuées. La crue de la rivière est proche de son record centennal. Le cadavre d'une femme retrouvé hier après-midi dans le coffre d'une voiture à Nanterre. La victime avait disparu depuis 7 ans. À l'époque, son mari avait indiqué que sa conjointe avait des tendances suicidaires. Nouvelle divergence entre Washington et Israël. La Maison-Blanche a fait savoir qu'elle désapprouvait l'interdiction d'Al Jazeera dans l'État hébreu. Pardon, mais Benjamin Netanyahou vient d'obtenir le feu vert de la Knesset. La chaîne d'information qatari pourra donc être suspendue d'émission en étant considérée comme une menace à la sécurité nationale israélienne. Il est impossible de tolérer un organe médiatique qui agit contre nous en période de guerre, vient de déclarer le ministre israélien des communications. Aux États-Unis, une personne a été atteinte de grippe aviaire. La maladie serait passée donc des oiseaux aux bovins pour se transmettre à l'homme. Le patient a été traité avec un antiviral contre la grippe et est placé à l'isolement. En Russie, les 13 mineurs portés disparus à 125 mètres sous terre ne seront pas secourus. Les opérations de sauvetage sont désormais terminées. Il y a 2 semaines, un éboulement avait eu lieu dans une mine d'or de l'extrême est du pays. Les accidents de ce type sont fréquents en Russie en raison du non-respect des normes de sécurité et de la vétusté des équipements.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet.
Et toujours dans le studio de France Info, Jeannick Halimi, éditorialiste politique, Cécilia Gabizon, journaliste, directrice des rédactions du groupe Média ETX Magellan, et Franck Boisdiz, journaliste économique à Libération. Nathalie Coutinet est toujours avec nous, on le remercie, maître de conférence en sciences économiques à Sorbonne Paris Nord et spécialisée dans l'économie de la santé. Notre sujet, c'est bien sûr ces franchises médicales qui viennent de doubler sur chaque boîte de médicaments, on le disait, et pour tout acte paramédical, de 50 centimes à 1 euro. Franck Boisdiz, vous vouliez réagir sur les propos de Jeannick Halimi auparavant.
Pendant le flash, j'ai ressenti certains chiffres, parce que Jeannick Halimi nous dit que les médicaments ne sont pas assez chers payés en France. Alors, j'ai simplement repris l'exercice 2023 de Sanofi, qui est notre premier laboratoire français, qui a, au bas mot, simplement fait, excusez-moi du peu, 10 milliards d'euros de bénéfices nets sur l'exercice 2023.
Je n'ai pas parlé des bénéfices de certains Big Pharma, j'ai parlé du prix des nouveaux médicaments. D'accord, médicaments qui empêchaient de financer la recherche. Madame Coutinet m'a répondu, remarquez.
Ce sont typiquement, Yannick, les éléments de langage des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils disent, finalement, si on ne met pas nos nouveaux médicaments à un prix suffisamment élevé sur le marché, on ne pourra pas financer notre recherche. Ça va même beaucoup plus loin, je crois que Nathalie Coutinier pourra le confirmer, c'est qu'il y a une sorte de chantage qui s'exerce maintenant. C'est-à-dire qu'un labo, quand il a un médicament innovant, dit « Bon, bah, écoutez, c'est très simple, si vous ne le remboursez pas à tel niveau, bah, je le mets chez vos voisins européens, mais vous ne l'aurez pas chez vous. »
Vous confirmez, Nathalie Coutinier ?
Un chantage et une difficulté. Et tout à fait. Et il y a aussi une difficulté pour les autorités de ne pas accepter un médicament remboursement au prix exigé par le laboratoire et de faire face aux associations de patients, par exemple, qui vont pas comprendre, et on peut aussi les comprendre, que ce médicament soit pas accepté. Donc effectivement, dans les négociations de prix sur les nouveaux médicaments, ce sont les laboratoires qui ont le pouvoir le plus important.
Yannick Halimi, pour revenir simplement sur cette mesure, ce passage de 50 centimes à 1 euro.
Oui, alors effectivement, Madame Coutinet rappelait que c'était en 2008, enfin c'était Nicolas Sarkozy qui l'avait mis 2008, en appelant à la responsabilisation...
Que dit aussi Bruno Le Maire d'ailleurs actuellement.
Voilà, absolument, alors voilà, exactement, à la responsabilisation des consommateurs. Le problème est des malades, donc hein, les consommateurs étant malades la plupart du temps. Le problème, c'est que les mesures telles qu'elles sont dites, là, augmentation, moindre remboursement, touchent chacun d'entre nous, touche tout le monde, mais ne responsabilise pas tout le monde. Je veux dire que ça touche... Alors, les ALD, finalement, alors que Bercy, il y a quelques semaines...
Affections de longue durée.
Les maladies graves devaient être concernées par ces mesures. Finalement, Bercy a fait marche arrière, probablement sous la pression
Pas les femmes enceintes, pas les mineurs non plus.
Voilà. Alors, il n'empêche que cette mesure touche, encore une fois, les malades et les moins malades, touche les personnes âgées et les jeunes, et touche surtout les personnes aisées de la même façon et les personnes beaucoup moins aisées. En revanche, elle responsabilise qui ? C'est-à-dire qui va en tirer les conséquences
faudrait
de ça ?
Faudrait distinguer pour vous ?
C'est plutôt... Peut-être qu'il faudrait peut-être distinguer, non pas pour à travers ces mesures-là, mais pour renflouer les caisses d'assurance maladie parce qu'elles sont en déficit et parce que la dépense va augmenter hein, au regard de l'allongement de l'âge.
Vous voulez quoi, Yannick Halimi, un système à l'anglo-saxonne
Non, je ne dis pas ça. D'abord, je n'ai pas de solution. Je dis que, encore une fois, ceux qui seront
que des problèmes.
Les plus touchés seront ceux qui devront se serrer la ceinture, si je puis dire. C'est certainement pas les plus aisés pour qui payer 50 centimes de plus ou de moins ne change pas. Je veux juste émettre une piste, mais c'est vraiment comme ça, une façon de faire participer l'ensemble de la population, aussi bien les salariés que les épargnants, que l'épargne, que les revenus du travail, serait peut-être, encore une fois, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est conceptuellement possible, une augmentation, par exemple, de la CSG. De la
contribution sociale généralisée
qui au moins aurait un effet.
Donc augmentation des impôts.
Un petit peu, mais en tout cas beaucoup plus juste que la baisse du remboursement.
Je fais appel à l'économiste, au journaliste économique que vous êtes, Franck Boisise.
Le déficit de l'assurance maladie prévu pour cette année, c'est 10 milliards. C'est quand même pas le bout du monde. Et on est toujours dans cette même philosophie, c'est-à-dire on a eu le même débat sur le chômage. C'est-à-dire que les comptes de l'assurance chômage...
Il est prévu
chômage,
pour 21 milliards l'année prochaine.
Non mais là, on est à 10 milliards sur 2024. Et donc, sur un budget aussi important, pourquoi ne pas s'attaquer à d'autres poches d'économies possibles plutôt que de dire...
Santé.
Non, à d'autres poches d'économie possibles au sein de la santé, plutôt que de dire on va pénaliser le consommateur. Parce que quand on dit la santé gratuite, non, la santé, je suis désolé, elle n'est pas gratuite dans ce pays puisqu'elle est financée par nos cotisations sociales. Donc c'est une fausse gratuité. En revanche,
mais c'est une impression qu'on a parfois.
Ouais. C'est une impression qui peut dévaloriser le service, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait sur notamment les transports sanitaires, où là il y a des économies qui sont lancées et qui peuvent être faites, quand on voit ce qui se passe sur certains effectivement médicaments de confort, peut-être sur lesquels il faut revenir, pourquoi taxer de manière uniforme le consommateur, qui est surtout et avant tout un patient, en lui disant quelle que soit la boîte de médicaments, qu'encore une fois il n'a pas choisi de prendre, eh ben vous en serez de votre poche alors que vous avez déjà cotisé par ailleurs.
Cécilia Gabizon.
Je vais apporter une petite touche un peu différente. Pour le coup, le gouvernement cherche partout ou faire des économies partout, et quelque part, alors, et très délibérément dans les dépenses sociales. Les dépenses sociales, c'est la moitié du budget des dépenses du gouvernement. Les dépenses sociales, c'est la retraite d'un côté, on a vu ce que ça avait donné sur la réforme des retraites, et il y a la santé, à peu près 30% de ces dépenses sociales. Sur les dépenses de santé, alors là, il y a la franchise, ça paraît, alors j'entends tous les arguments et on pourrait les suivre, mais ça paraît en même temps un peu indolore, le 50 centimes qui passe à 1 euro, ça dépend quel est votre degré de maladie et de consommation
de médicaments.
Voilà, quantité de médicaments, mais comme ça...
Cela dit, c'est limité à 8 euros par jour.
À 50 euros par an, c'est bridé aussi. Après, il y a une autre question qui est aussi en ce moment à l'étude, semble-t-il, c'est la question des arrêts maladie. Et la carence, en fait, avant qu'on rembourse les arrêts maladie. Aujourd'hui, c'est 3 jours.
Le délai de carence
qui serait rallongé plus largement. Donc effectivement, là, on voit finalement qu'on repasse tout ce qui constitue aujourd'hui les mécanismes de remboursement ou de prise en charge de la santé sont repassés, en fait, à l'étude pour alléger, en fait, la part de l'État là-dedans. Ensuite, est-ce que ça va conduire... Ce qui est intéressant, c'est pas simplement de faire des économies pour faire des économies, c'est est-ce que ça permet d'améliorer le système de santé? Parce que c'est finalement un peu la discussion que vous aviez avant, même sur le prix des médicaments.
On peut poser la question à Nathalie Coutinet, qui est toujours avec nous.
Oui, je suis toujours avec vous. Moi, j'ai envie de dire deux choses sur ces franchises. D'abord, que ce sont en général les médecins qui sont prescripteurs de médicaments et non pas les patients dans les médicaments remboursés notamment. Donc, il y a déjà une limite à cette mesure. Et puis, n'oublions pas que de plus en plus, la santé, elle est financée par les complémentaires santé, par les complémentaires, les assurances complémentaires. Et là aussi, c'est de la dépense pour les ménages. Donc, ça fait des dépenses qui s'accumulent les unes aux autres. Et est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à augmenter les cotisations sociales? Parce que, comme ça a été dit, les dépenses de santé augmentent. Elles augmentent non seulement en raison du vieillissement, peut-être pas tant que ça, mais aussi en raison des coûts, des soins qui augmentent parce que les technologies sont plus précises, les médicaments plus efficaces.
Et que la population vieillit.
Et que la population vieillit. Mais ça ne change pas tellement, ça, là, parce qu'on consomme... la quantité de médicaments à la fin de sa vie, la plus importante, mais qu'on la dépense à 70 ou à 90 ans, ça ne change pas énormément. Par contre, la population s'accroît aussi et que surtout, le coût des soins est de plus en plus important. Donc, il faudrait peut-être réfléchir un peu à long terme sur l'évolution probable des dépenses de santé compte tenu des coûts des soins et d'adapter le financement à cette évolution plutôt que de prendre des mesurettes qui n'ont pas beaucoup de sens et qui généreront des inégalités d'accès aux soins, puisque comme ça a été dit aussi, c'est une mesure qui va surtout frapper les plus modestes, même si les bénéficiaires d'un complémentaire de santé solidaire à la CSS ne seront pas impactés. Il faut rappeler que pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, il faut toucher par personne 847 euros par mois. Et donc, ça peut être effectivement quelque chose qui pèse, hein, au-delà de ce montant, qui pèse sur les ménages les plus modestes. Et en ça, c'est pas une bonne mesure.
Une nouvelle piste de réflexion. Merci Nathalie Coutinet. On va s'interrompre à nouveau le Fil Info. 20h40 avec vous, Thomas Giraudeau.
Benjamin Netanyahou assure qu'il va agir immédiatement pour interdire Al Jazeera en Israël, la chaîne qatari dont certains journalistes sont suspectés d'être proches du Hamas selon l'armée israélienne. Washington juge ce soir préoccupant cette interdiction. Dans le même temps, des frappes israéliennes ont tué ce soir un commandant des gardiens de la révolution iranienne. Cela s'est passé à Damas en Syrie où le consulat d'Iran a été détruit. Israël accuse l'Iran, soutien du Hamas, de vouloir s'implanter en Syrie. Le pays partage une frontière commune avec l'État hébreu. Ils avaient promis de partir à la mi-journée. 4000 teufeurs ont quitté l'aéroport de Quimper dans le Finistère. Ils s'y sont installés tout le week-end pour une rave party. L'événement a été interdit par la préfecture. Les gendarmes dressent une contravention pour chaque participant qui quitte le site. Malte, le Luxembourg et maintenant l'Allemagne. Trois pays de l'Union européenne autorisent la consommation de cannabis à usage récréatif, mais elle reste limitée. Pas plus de 25 grammes par personne et 50 cultivés chez soi. La consommation est par ailleurs interdite près des écoles, des crèches et des terrains de jeu.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et le gouvernement qui cherche donc à faire des économies du côté de la santé. Est-ce que c'est payant ça, Jeannine Calimi?
Non, ce n'est pas payant, hein, indépendamment de tout ce qui a été dit, efficace, pas efficace, juste, pas juste. Les Français sont très attachés globalement, conceptuellement, politiquement, affectivement, historiquement, culturellement à notre modèle social. Et on se souvient, par exemple, de François Fillon qui avait sorti, je crois, 100
premier
milliards.
Premier ministre de Nicolas Sarkozy.
Premier, mais pendant la campagne, hein, en 2016, pour la présidentielle de 2017, avant même que le scandale n'éclate, hein, et on avait vu sa courbe dans les sondages, bien sûr, commencer à baisser, je crois, dès décembre ou début janvier. Avant même le scandale Pénélope Fillon. Je voudrais juste terminer en disant une chose. Vous le disiez, Cécilia. Le budget de la sécurité sociale est beaucoup plus, alors je n'ai pas les chiffres,
640 milliards.
Non, mais deux ou trois fois, pardon, supérieur au projet de loi de finances, au budget de l'État. C'est une masse considérable de cotisations, de charges, de protection.
450 milliards pour l'État.
De protection, voilà.
Monsieur Chiffre, Franck Boisise.
Plus que ça, non, il a les chiffres et il a les idées qui s'adaptent aux chiffres et réciproquement, par moment. Je voudrais dire par là qu'on a beaucoup parlé, on parle toujours beaucoup de la forteresse de l'administration de Bercy, qui est extrêmement puissante, de l'administration générale. Juste qu'on n'oublie pas aussi que l'administration de la santé, c'est-à-dire le Ségur, on dit Bercy pour les finances et l'économie, on parle du Ségur maintenant pour la santé, c'est également devenu une administration énorme qui fonctionne en silo, qui fonctionne avec des féodalités. Et là aussi, il y a des économies à faire, ne serait-ce que pour créer, pour détruire ces silos, pour par exemple ne faire que créer un dossier personnalisé, vous savez, qui permettrait de rationaliser les dépenses, les radiographies qu'on vous demande. Et il y a des freins importants au sein de ce ministère, également chez les professions médicales. Mais ce ministère-là est devenu quelque chose d'extraordinaire en 20 ans.
Franck Boisise.
Pour revenir à des choses concrètes qui vont peut-être parler à nos auditeurs, il y a des gisements d'économie aujourd'hui dans ce budget. Prenons un exemple, parce que je crois que tout le monde autour de cette table s'accordera pour dire qu'il est vertueux. Sur les dépenses d'optique, ce qu'on a appelé le forfait Macron, qui fait qu'aujourd'hui, le deal est de dire, vous aurez un remboursement intégral de vos lunettes et de vos verres, il y a beaucoup de Français qui portent des lunettes dans ce pays, à condition que vous respectiez une certaine enveloppe. Ça a évité les errements qu'on a pu voir dans le passé, où on se faisait rembourser par sa complémentaire santé, donc par le biais de nos cotisations, des montures de marque, des verres extrêmement onéreux, et par la voie de conséquence, on va y ouvrir des opticiens comme des champignons dans les quartiers de nos villes. Donc, à un moment donné, on peut s'attaquer à certaines rentes de situation qui existent dans la santé. L'optique en est un exemple, mais on pourrait peut-être aller voir du côté des laboratoires d'analyse médicale ou du côté de la radiologie, puisqu'on prescrit de plus en plus d'examens aujourd'hui par la médecine préventive. Si là, il n'y a pas quelques économies à faire qui iront peut-être bien au-delà des 800 millions que l'on obtiendra peut-être sur les franchises, sur les boîtes de médicaments.
Un dernier mot, Cécilia Gabizon, sur le sujet.
En tout cas, sur la rationalisation des dépenses de santé pour faire que le système tienne, parce qu'il craque de partout. N'oublions pas que, ok, comme ça on se dit, ah, le gouvernement il cherche à faire des économies, mais aujourd'hui le système de santé craque de partout. On veut le préserver, il est hyper important, il est le bras armé de la politique sociale, et donc c'est super important. Comment on fait pour qu'il tienne, et pas simplement en mode défensif, qu'il soit plus efficace? Et si on se dit, ah ben non, ça il faut pas y toucher, ça il faut pas y toucher, ça il faut pas y toucher, on est aussi dans une situation de blocage. Donc c'est intéressant, c'est peut-être pas, là c'était peut-être pas l'endroit judicieux pour créer de l'efficacité. Il y a peut-être des mécanismes plus vertueux à aller chercher, mais il ne faut pas être contre le fait de, à un moment donné, réformer des choses de l'assurance santé.
Un rappel, les économies globales à réaliser. L'objectif, en tous les cas, de l'exécutif, 10 milliards d'euros pour cette année 2024, 20 milliards en 2025. Partons à présent en Israël, avec près de 6 mois après l'offensive du Hamas et le début de la guerre, ces manifestations monstres à Jérusalem pour demander la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y en a déjà eu deux en deux jours, une autre a lieu ce soir, un tournant important en Israël, estime sur France Info l'historien spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Pierre Filu.
Le vrai tournant, c'est que dans la rue, à Jérusalem, mais aussi ailleurs, on met à bas la justification de Netanyahou que cette guerre sert à libérer les otages. Au contraire, les manifestants affirment haut et fort que c'est un accord qui permettra de libérer les otages et non la poursuite des hostilités, et que celle-ci ne sert que les intérêts étroits, égoïstes et à courte vue du Premier ministre. Ça, dans un pays qui est habitué à une unité de combat dans ce type d'épreuve, on peut considérer que c'est un tournant, mais ça concerne encore des populations relativement limitées. Mais voilà, quand le consensus se brise et c'est cela l'événement.
L'historien Jean-Pierre Filiu, la colère qui était jusque-là celle des familles d'otages ou de victimes, Franck Boisil, elle s'est largement généralisée depuis ?
Elle s'est visiblement généralisée, mais c'est quand même un signe marquant visiblement de la vitalité de la démocratie israélienne. Je ne suis pas convaincu que les Gazaouis qui, avant le 7 octobre, n'étaient pas tout à fait contents du règne de Yahya Sinoua manifestaient beaucoup, ou que ceux qui ne sont pas contents en Cisjordanie étaient manifestés devant la Moukata, qui est le siège du gouvernement, ou contre Mahmoud Abbas. Donc ça, c'est le premier point. C'est un élément de la vitalité de la démocratie israélienne. D'autre part, on est à 6 mois bientôt.
Qu'on avait déjà vu avec les manifestations aussi énormes contre la réforme constitutionnelle mois auparavant.
Contre la réforme judiciaire, effectivement. Donc Israël est un pays qui, dans son ADN, de toute façon, manifeste, descend dans la rue. Mais il y a un élément aussi, je pense, temporel qu'il faut prendre, donc qui est, on est à 6 mois quasiment de guerre, et tout conflit avec son coût humain, avec la situation des otages qui perdure, et on a les premiers témoignages.
Une forme d'usure, finalement.
Voilà. Non, mais on a surtout aussi les premiers témoignages d'otages qui commencent maintenant à parler, à la fois sur les viols, sur les souffrances qu'ont enduré les enfants, et donc ceci provoque légitimement un traumatisme dans la société israélienne, et une attente quant à des négociations qui pourraient déboucher sur d'autres libérations.
Cécilia Cabizon.
Plusieurs choses. Il y a d'abord eu l'état de choc, de sidération de toute la société israélienne. Ça veut dire que les forces qui d'ailleurs manifestaient avant le 7 octobre contre la réforme de la Cour suprême, etc., ont été complètement tétanisées. Tout le monde sous l'effet de choc, et il y avait que les familles d'otages qui demandaient la libération. Et puis la société israélienne a fini par comprendre, enfin une partie de la société israélienne, avec les parents d'otages, a fini par comprendre, en tout cas par douter du fait que, est-ce que Netanyahou faisait vraiment la politique pour libérer les otages? Ça s'appelle à quel prix? Récupérer les otages à quel prix? Et qu'il y avait en fait quelque chose d'un peu obscur sur le fait qu'il n'y avait pas de vraie volonté de récupérer les otages, parce que il faut les échanger contre des terroristes palestiniens, et donc il y a dans le gouvernement israélien des gens qui en fait font durer, ils ne sont pas prêts à payer ce prix-là, et le prix d'une négociation avec le Hamas. Donc en fait il y a une perte de confiance sur le fait que Netanyahou voulait récupérer les otages, et puis la gauche qui avait été tétanisée, tous ceux qui manifestaient, là en fait quand les parents d'otages pour certains ont commencé à manifester, à ce moment-là ça a fait cette énergie-là. Et pour que vous sachiez, c'est la grande centrale des travailleurs menace de faire grève, et par ailleurs les entreprises ont libéré, c'est-à-dire ont offert les jours à leurs salariés, donc l'économie de la tech, etc., ont offert les jours à leurs salariés pour qu'ils puissent manifester. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des forces convergentes quand même qui contestent le gouvernement Netanyahou.
Jeannick Halimi, on vous entendra dans un instant. D'abord, le fil info à 20h50, Thomas Giraudeau.
Un peu plus de 70 personnes ont été évacuées de chez elles et d'un camping près de la rivière de l'Armançon. Elle devrait atteindre sa hauteur maximum cette nuit. Les deux départements qu'elle traverse, la Côte d'Or et l'Yonne, sont en vigilance rouge au risque de crue. L'Indre-et-Loire a rebasculé en orange. La décrue de la Vienne est en cours. Washington juge très préoccupantes les informations données par le Hamas sur l'hôpital Al-Shifa. Des dizaines de corps y ont été retrouvés après le départ des troupes israéliennes au bout d'une opération qui a duré 2 semaines. L'armée affirme y avoir tué 200 combattants du Hamas. Israël a par ailleurs tué un commandant des gardiens de la révolution d'Iran ce soir au cours de frappes qui ont détruit un consulat iranien situé à Damas en Syrie. L'Iran est un des soutiens du Hamas. Et puis plus besoin d'accoler l'étiquette verte sur votre pare-brise. À partir d'aujourd'hui, les policiers ont accès aux fichiers des assurances. Ils peuvent directement vérifier si vous êtes oui ou non assuré. Autre changement ce 1er avril, les minima sociaux, RSA, primes d'activité, allocations adultes handicapés sont revalorisés de 4,6%. Le revenu de solidarité active passe à 635 euros pour une personne seule.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Avec ces manifestations en Israël pour réclamer le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou, hier devant le Parlement israélien à Jérusalem, plus de 100 000 personnes s'étaient rassemblées, dont ce manifestant, Avram Fari.
Nous sommes à la croisée des chemins et je suis pour des élections anticipées le plus tôt possible, même si c'est en pleine guerre, sinon la situation va encore empirer et elle est déjà catastrophique.
Les manifestants qui demandent donc des élections anticipées, près de 6 mois, on l'a dit, après l'attaque du Hamas, et alors que de très nombreux otages sont toujours privés de liberté, Benjamin Netanyahou répond, lui, que des élections en pleine guerre affaibliraient Israël. Yannick Halimi, est-ce qu'il peut vous répondre autre chose aujourd'hui?
Ben non, parce que d'abord, peut-être que ça l'affaiblirait quand même en pleine guerre, mais mettons ça de côté.
Ça l'affaiblirait surtout lui.
Ouais. Voilà, c'est ce Netanyahou, que j'allais. C'est ce que c'est. Voilà, c'est exactement ce que j'allais. Vous allez trop vite pour moi là ce soir. oui, il est pratiquement sûr. On voit l'opposition, les oppositions dans la rue. Il est pratiquement sûr de perdre ces élections puisqu'il était déjà fragilisé avant même cette guerre. Je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais il est non seulement fragilisé parce qu'il n'arrive pas justement à atteindre l'objectif quand même qu'il s'est donné, c'est-à-dire tout de même. Libérer les otages.
Double objectif.
Enfin, moi, j'en vois effectivement deux. Je ne sais pas si ce sont les vôtres, mais je vous en prie. C'est la libération des otages plutôt sains et saufs. Enfin, en tout cas, ceux qu'il en reste, puisqu'il y a déjà des morts. Et puis, le but aussi que s'était donné Benjamin Netanyahou, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous pensez, c'est d'éradiquer, c'est bien ça, les têtes terroristes, notamment du Hamas, mais aussi, on le voit depuis quelques jours, du Hezbollah et d'autres groupes terroristes descendants, entre guillemets, héritiers des frères musulmans, par exemple, en Syrie. Autant de choses qu'il n'a pas atteintes, pour le moment, mais ça dure. Mais juste un autre point, Benjamin Netanyahou est de plus en plus seul, l'opinion publique le lâche, sa politique sécuritaire n'a pas atteint ses objectifs. Il va falloir une solution politique que Benjamin Netanyahou, tenu quand même par des ministres et une majorité de deux petits partis d'extrême droite qui l'empêchent de changer de ligne politique, si tant est stratégique qu'il en ait envie. Il est de plus en plus isolé par son principal allié, les États-Unis. Peut-être pas Joe Biden en tant que tel, quoique il ait voté, souvenez-vous, la semaine dernière pour la première fois un cessez-le-feu, mais aussi au sein même de son gouvernement. L'autre pointure, si je puis dire, une des têtes pensantes et politiques de son gouvernement, c'est le général Benny Gantz, qui est un général centriste, qui prend de plus en plus ses distances politiques et, j'allais dire, géographiques avec Benjamin Netanyahou, puisque la semaine dernière, il est allé à Washington pour signifier aux Américains qu'il y avait une alternative politique et stratégique à la ligne incarnée par Benjamin Netanyahou. Donc, les choses sont extrêmement compliquées pour ce monsieur-là et elles sont plus compliquées pour le Moyen-Orient.
Ça veut dire,
Franck
Boisis, que le départ de Netanyahou, finalement, la question n'est pas de savoir s'il arrivera, mais quand ?
Oui, Netanyahou n'est presque plus le problème au moment où nous parlons, parce que j'étais deux fois en reportage en Israël depuis le 7 octobre. On sent bien qu'il y aura une commission d'enquête, qu'elle va montrer les dysfonctionnements qui ont eu, qui ont permis le massacre du 7 octobre. Et de toute façon, après 19 ans d'exercice politique en Israël, on n'imagine pas que Netanyahou puisse continuer à conserver ses fonctions. Mais les vrais problèmes sont beaucoup plus structurels. C'est-à-dire que si l'on regarde dans les années qui ont précédé, au cours des 5 dernières années, la durée moyenne d'un gouvernement, c'est entre 15 et 18 mois. Il y a eu des élections à répétition en Israël, tout simplement parce que ce pays, qui est une grande démocratie, n'a pas su mettre au point une loi électorale qui permet d'avoir une sorte de scrutin majoritaire qui assure des majorités stables pour la direction de ce pays. Donc, les enjeux pour Israël...
Puisque vous disiez 19 ans, mais pas d'affilée, bien évidemment.
19 ans et pas d'affilée, vous le soulignez à très juste titre. Donc, les enjeux majeurs pour Israël, c'est pas Netanyahou, c'est... Comment on ressoude ce pays, qui est effectivement assez fracturé? Comment on a une loi électorale qui permet d'avoir une stabilité gouvernementale? Comment l'économie israélienne, qui est jusqu'à présent sous l'impulsion du high-tech, va pouvoir continuer son ascension? Parce que l'économie israélienne...
Elle se porte bien pour l'instant.
Elle se porte bien, mais elle repose essentiellement sur l'innovation et sur le secteur high-tech. Or, quand un pays est en guerre, quand la moitié de ses ingénieurs sont au front, il est un peu plus difficile de faire dans l'innovation. Et puis, dernier point, il y a un vrai sujet sur le nord Israël et le sud du Liban, où pour le moment il y a une sorte de guerre larvée qui existe, mais dont on peut considérer qu'elle peut exploser à tout moment et ouvrir un deuxième front.
Là, il y a un autre sujet aussi, c'est les ultra-orthodoxes, parce que on peut dire c'est pas Netanyahou, mais quand même, c'est que quelque part il y a une partie de la société israélienne qui a basculé vers la droite et vers l'extrême droite, et puis les ultra-orthodoxes. Aujourd'hui, 14% de la population, c'est gigantesque. Alors en ce moment même, il y a une crise qui est larvée, puisqu'ils sont censés maintenant faire leur service militaire comme les autres. En tout cas, ils ne sont plus payés pour être dans les écoles religieuses où ils étudient. Et ça, ça va être en fait une fracture, une dissension au sein de cette majorité Netanyahou qui est l'extrême droite.
Mesure à laquelle s'oppose Netanyahou.
Voilà. L'extrême droite, les ultra-orthodoxes Netanyahou. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, il y a quand même ces forces en présence qui, aujourd'hui, sont rassemblées par Netanyahou, mais vont continuer à exister après Netanyahou.
Oui, Jeannick Halimi.
Juste, je suis un peu pessimiste sur ce qui se passe en Israël même. Pourquoi ? Parce que effectivement, au-delà du déplacement vers la droite, voire l'extrême droite d'une partie de la population, même la composante qui est encore, qui reste très importante malgré tout, mais qui est pour la reconnaissance de deux États de deux États.
61% pour deux États.
Voilà, voilà, exactement. Mais il n'empêche que les massacres du 7 octobre, y compris dans cette population plutôt ouverte pour la paix, pour une solution politique, tout d'un coup, il y a une fracture. Ce 7 octobre a créé un choc, y compris au sein de cette population, même si elle est fondamentalement ouverte à une solution pacifique. Tout ça pour dire quoi ? C'est que je ne sais pas s'il y a des personnalités, je parlais de Benny Gantz tout à l'heure, à lui seul, il ne peut pas faire la paix. Je ne sais pas s'il y a des personnalités qui vont sortir du lot, malheureusement, du sein tant de la société israélienne que, bien sûr, de la société palestinienne. Je n'en sais rien. Il me semble qu'il faut, des puissances tierces. Le problème, c'est que l'Amérique, et peut-être l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais les États-Unis qui ont joué ce rôle-là depuis 20-30 ans, malheureusement, surtout si c'est Donald Trump, je ne suis pas sûre que les États-Unis aient envie et la possibilité de jouer ce rôle-là.
Les élections américaines qui auront lieu le 5 novembre prochain. Merci à tous les trois d'être passés par les informés ce soir. Jeannick Halimi, Cécilia Gabizon et Franck Boisiz. À la une de Libération, vous l'avez pour demain, Franck.
Alors, nous reviendrons sur... si vous me laissez 30 secondes, je le regarde sur mon téléphone.
Je peux vous parler de ce qu'on a en une sur Magellan, la plateforme de podcast. Un podcast passionnant sur les traces des héros populaires. Ça s'appelle Mythe Mytho. Et en fait, deux grands reporters ont enquêté sur les personnages bien réels qui les ont inspirés. Et là, c'est Dracula.
C'est Magellan. Allez-y, Franck, pour la une de Libé.
Disponible dès 21h30 ce soir sur tous vos écrans. Et nous revenons, nous revenons sur la grève des profs avec un excellent titre contre le passage à niveau, puisque nous revenons sur le projet Attal-Belloubet, qui est de faire des classes de niveau dans l'éducation nationale.
Titre à la Libé. Merci à tous. Les informés reviennent demain matin 9h, Salia Brakia et Renaud Dely.